bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec les lacs de Boudin.
Bonjour à tous.
Daniel Morin, Tom Vu.
Bonjour.
Alexis Lerossi.
Bonjour.
Tout à l'heure, Tanguy Passero. Et notre invité est Delphine de Bigorre. Bonjour Delphine.
Bonjour.
Delphine de Vigan.
Bienvenue.
10 livres. J'ai demandé des chiffres à mes camarades de jeu. 10 livres au total, si on compte celui-même sous un pseudo. 10 livres au total, 1 million d'exemplaires vendus de Rien ne s'oppose à la nuit au total. C'est vrai ça?
Un million. C'est aussi, si vous le dites, j'imagine que c'est vrai.
Ah, mais vous devez savoir quand même. Un million, ah, bon, c'est
je passe pas mon temps dans les chiffres, moi, vous savez. Mais oui, oui, non.
C'est possible.
Ça fait partie. Ouais. Oui, voilà.
C'est possible.
C'est possible. C'est possible. Oui, c'est possible.
Ouais. Donc on va dire que c'est plus d'un million. Alors, pour Rien ne s'oppose à la nuit, qui n'est pas devenu un film, contrairement à D'après une histoire vraie, qui est également un grand de vos succès, qui a été un film de Roman Polanski l'année dernière ou il y a 2 ans.
Ouais.
Et Noé et moi, Kezabou également, Bretman a
adapté à l'écran,
mais on sent que c'est une tendance de beaucoup de vos romans, ça aussi, d'être adapté.
Bah, oui, il y a eu Les Heures Souterraines aussi, ouais. je le mentionne, parce que j'aime beaucoup le film qui a été adapté par Philippe Harel pour Arte. Donc c'était un téléfilm qui a été diffusé plusieurs fois sur Arte.
Et vous aviez collaboré à cette adaptation ?
Non, du tout.
Vous ne le demandez pas ?
Non, ouais, non, en général, je préfère éviter.
Pourquoi non ?
Bah, parce que je pars du principe qu'une adaptation est toujours une interprétation, voire une trahison. Et,
le mot avait été employé par Philippe Labrou, il avait dit que c'était une trahison.
Oui, c'est souvent le cas et c'est nécessaire parfois. Donc voilà, je préfère me tenir à distance. Pour moi, c'est le travail d'un autre artiste.
Les gratitudes chez Jean-Claude Attest, le nouveau de Vigan, c'est un événement. La formule, même quand elle est employée comme ça, est toujours dite. On verra si quelqu'un va pleurer, puisque quand vous venez à France Inter, généralement, un animateur, un journaliste pleure pendant votre interview. Donc on verra si c'est le cas ou pas aujourd'hui.
Pour Nicolas Demorand, petit clin d'œil.
Peut-être, oui. Mm-hmm. Oui, c'était touchant.
Surtout en réaction aux témoignages très émouvants des auditrices.
N'ayez pas peur, n'ayez pas peur de vieillir.
On a tous, je pense, été assez saisis dans
Daniel,
le studio.
Daniel, tu as pleuré, non ?
J'ai pas envie d'en parler. C'est mon petit jardin secret.
Ça fait raison.
Merci.
Non, t'as pleuré, t'as été troublé.
Mais ça ne vous regarde pas, écoutez.
Mais c'est... À la lecture, si.
La lecture, tu es troublé.
Ah, je croyais que vous parliez de notre rencontre de ce matin.
Non,
oui, pour les deux, oui, j'ai pleuré.
Ouais. Les gratitudes, donc, on va en parler dans quelques instants, mais d'abord des questions concernant Delphine de Vigan. Elle est gourmande, Delphine de Vigan.
Bienvenue, Delphine.
Si. Voilà. Elle a un bonbon préféré.
Les Arlequins.
Arlequins.
Non.
Berthers.
Les Berthers originaux.
Les bonbons à l'amande, puis qui chantent. Les caramels. Les crémas.
J'adore les crémas. Non, c'est pas ça.
Les Scooby-Doo.
Non.
Adragibus, j'adore aussi, mais c'est mon numéro 2.
Les oursons. Les petits oursons.
Exactement.
On a fait plein de marques.
Je l'aurais pas mis dans les bonbons.
On a fait plein de marques.
Dans quoi tu le mets?
Mais oui, qu'est-ce que tu veux?
Cochonnerie, mais pas...
Ah oui.
C'est pareil.
Ah, mais si tu dis elle est gourmande et après elle aime une cochonnerie en particulier...
Ça passe pas. Les oursons guimauve chocolat.
J'adore ça, c'est... Non, pas vous, Nagui.
Non, mais c'est-à-dire que je pense que j'en ai mangé quand j'étais gamin jusqu'à l'écœurement, ce qui fait que maintenant, le premier ourson chocolat, stop.
Ça peut vous aimer
la première cuite que l'on a dans la vie avec un alcool.
Oui.
Plus jamais cet alcool ne pourra passer.
Ça arrive.
Et puis après, on passe outre et puis on recommence.
Pas celui-là.
On donne une deuxième chance.
Pas celui-là. La confiserie et le sucre, on va dire le sucre industriel, c'est quand il y a des moments de déprime, de concentration, quand vous écrivez, vous mangez des bonbons en écrivant.
Non, à vrai dire, aujourd'hui j'en mange assez peu. J'en ai mangé beaucoup quand j'étais petite. Il y avait ça date un peu, mais il y avait des tirettes quand j'étais petite. Je ne sais pas si vous avez connu ça.
Absolument,
les tirettes
à un franc.
Et donc on avait un petit sachet de bonbons avec un petit mélange. Voilà. Aujourd'hui, non, ça m'arrive de temps en temps. C'est plutôt j'en pique à mes enfants, en fait.
Discrètement.
Mais
évidemment, pour pas qu'ils vous accusent de quoi que ce soit.
C'est du racket.
Tiens, on va parler d'école justement. Qu'est-ce que le professeur d'allemand, monsieur Guidet?
Grudet?
Grudé, pardon, a conseillé à Delphine de Vigan
d'arrêter.
De faire espagnol.
Ah, vous êtes vraiment au courant.
Ben, c'est ça.
C'est ça.
Enfin, c'est pas, c'est, non, c'est espagnol ou, enfin, d'arrêter, d'abandonner l'allemand, en tout cas.
Ben oui, c'est drôle, mais comment vous savez ça?
On l'a appelé.
Je le salue, monsieur Grudet, parce qu'il a, il a tout fait pour tenter de sauver mon niveau d'allemand. Mais en effet, malgré ses efforts, il m'a conseillé, une fois arrivé au bac, de prendre anglais, première langue. Il m'a dit, tu as fait beaucoup de progrès, mais on n'y est pas encore tout à fait. Ça suffira pas.
Non, mais c'est l'intelligence d'un professeur, finalement. C'est de ne pas se vexer de défendre sa matière comme une espèce d'étendard et de défendre la culture qu'il représente, mais de penser au bien de l'enfant.
Oui, tout à fait. Mais j'avais des grosses lacunes en allemand qui étaient liées à mon démarrage, enfin, ma rencontre avec l'allemand qui s'était passée dans un collège de banlieue avec une professeure qui, pendant 3 ans, ne nous a pas fait cours. Donc, elle venait. Elle s'asseyait et bon, faut dire que
il y avait du chahut.
Il y avait beaucoup de chahut. Ouais. Oui, c'était un collège un peu, sans doute un peu compliqué, et donc elle ne faisait pas cours. Donc ensuite, je suis arrivée, j'ai changé d'établissement, et là, je suis tombée sur un prof d'allemand qui ne me croyait pas en plus parce que j'étais incapable de faire une phrase en allemand. Ah oui. Et après 3 ans, c'est quand même un peu suspect. Donc il pensait que je me moquais de lui, et je me souviens d'ailleurs avoir fait semblant de me cogner dans la cour du collège, ce nouveau collège.
Et vous avez dit aïe.
Non, je m'étais projetée moi.
Salvane raciste, anti-nazie, violente, quoique.
Moi, je trouvais
j'aime
ça
bien,
réactif.
Oui, j'aime bien.
Je m'étais projetée moi-même sur un mur pour éviter un contrôle d'allemand. Je me suis retrouvée aux urgences avec des pompiers, etc. Wow. Hyper culpabilisée à l'idée que ma mère aurait à payer une radio inutile. Et ça a été le cas d'ailleurs. Et voilà. Enfin, ça a été le début de ma scolarité
phobie,
allemande.
Ouais.
Voilà, une sorte de phobie. Et ensuite, donc, je suis
arrivée
en Normandie.
C'est la première fois que vous faites du mal. D'ailleurs, vous l'avez déjà évoqué dans certains de vos livres. Mais
Là, c'était plutôt pour échapper effectivement à ce contrôle. C'était peut-être un peu radical comme méthode. Bon, en fait, je ne m'étais pas vraiment fait mal. C'est juste qu'il fallait faire semblant d'avoir mal. Donc,
Nous, ça dépend des invités. On fait pareil quelquefois. Juste avant l'émission, on rentre dans un mur. En fait, je ne peux pas participer.
Ah là, oui, j'en ai entendu parler.
On est tous restés en bon état pour vous.
Non, mais je me demandais si l'anorexie était une forme de se faire aussi
Ah bah oui,
du
bien
mal.
Sûr. Bien sûr, mais c'est très différent. Là, c'est
vous
oui,
l'avez
oui. Oui, oui, je l'ai évoqué.
Le ressort n'est pas le même.
Non.
À propos de douleur, permettez-moi, Delphine, d'évoquer vos douleurs de dos. Elle a des problèmes de dos, ce qui est le cas, à mon avis, de la 99% de ceux qui nous écoutent. 100% de ceux qui nous écoutent.
Voilà.
Vous n'avez pas mal au dos, vous? Tout le monde a mal au dos. C'est le mal du siècle, le mal au dos.
Oh,
et elle est contente, elle, d'avoir mal au dos. Mais pourquoi?
Parce qu'elle reste allongée.
Parce que non. Ça veut dire que...
Parce qu'elle reste debout.
Des massages.
Alors, ça... Non.
Parce qu'elle est obligée de bien se tenir.
C'est psychologique, c'est un lien avec le psychologique, ça me casse le dos.
Non, ça a une incidence et...
Elle n'a pas apporté des trucs.
Ça l'arrange. Alors, c'est pas loin. Elle n'a pas à faire quelque chose et ça l'arrange.
La cuisine?
Le ménage?
Non.
Qu'est-ce qu'on fait pas quand on a mal au dos?
Et ouais, allez, je vais prendre ça. Ouais, c'est ça. Ça vous permet de pas faire de jogging. Vous dites, ah non, je peux pas faire de jogging, ça me fait mal au dos.
Ah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est très déconseillé pour le dos, le
mais
jogging.
Oui,
pour
oui,
les genoux, c'est
alors
très
que
mauvais
la piscine,
pour tout, en
tout
réalité.
Tout un tas de choses sont déconseillées.
Oui, mais le jogging en particulier. Non, ça va beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins mal au dos, je dois dire.
Tant mieux. Il y a beaucoup de personnes qui
font.
Il y a beaucoup de personnes qui joguent autour de vous. Généralement, d'ailleurs, ces personnes ont tendance à dire, allez, viens, on y va tous ensemble. Et
oui, ça peut arriver.
Vous avez un alibi.
Oui, oui. Enfin, j'ai surtout mon éditrice qui jogue beaucoup, qui est vraiment une coureuse de fond.
Vous pratiquez quand même un sport. Vous êtes dans une forme olympique. Comment vous entretenez cette forme olympique?
Je marche, en fait. Je marche beaucoup, comme beaucoup de gens qui écrivent. C'est un moment, en fait, à la fois où on peut penser à plein de choses. Et,
vous avez même dit que c'était anti-stress, la marche.
Oui, ça sert à plein de trucs.
Vous marchez sans
Donc, il m'arrive de marcher sans but, effectivement, et puis sinon, je marche beaucoup d'un endroit à un autre. Mmh. Quand je peux, par exemple, éviter de prendre le métro et marcher pendant une demi-heure, je vais marcher pendant une demi-heure.
Avez-vous croisé Catherine Fraud qui nous a dit la même chose?
Ah bon?
Oui,
et bien, figurez-vous, je l'ai croisée il n'y a pas plus tard que 10 jours à Port-Royal.
Ben voilà.
Et je me suis dit, tiens, c'est Catherine Fraud.
Elle marche elle aussi.
Elle traîne mal à Port-Royal, ouais. On a eu des plaintes.
Dernière question, un jour, Delphine a oublié un livre dans un avion. C'était quel livre?
La Bible.
Elle était un tout petit peu gênée d'avoir oublié ce livre.
Le sien?
Kamasutra.
Ou un livre qu'on lui avait offert juste à côté, un auteur.
Non, c'était pas le sien, c'était pour préparer, en tout cas, un livre.
50 nuances de gris.
C'est dans l'esprit.
La Bible,
je connais. Non, vous trouverez jamais. Ça va
pas, non. Pour rire. Mais le cantique des cantiques. Le cantique des cantiques.
Mais non, alors, Kamasutra, 50 nuances. Mais ils trouveront jamais. Je sais même pas si c'est un livre connu.
Je me rappelle plus exactement du titre. Je vois tout à fait à quoi.
C'est un livre très gênant.
Non, mais c'est surtout parce que.
C'est pas les SOS, non, c'est pas ça.
C'est le titre qui est gênant. Le livre, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais le
dernier tango à Paris.
Non. Allez, je vous le dis. Ouais, je vais, Daniel, te donner le point, parce que Kamasutra, on n'est pas,
oui,
loin.
Oui, on n'est pas loin. Ouais.
365 façons de jouir.
Ah ouais. Je suis pas sûre, c'était tout.
Non, de
ça,
la
c'était...
faire jouir.
Voilà,
pardon.
Parce que c'était un genre de mode d'emploi quand même pour être performant.
Voilà. Comment fonctionne une femme?
Oui, c'était plus sur la performance générale, on va dire. Hein,
c'est quoi le titre? Et l'éditeur.
Mais comme je l'ai perdu, effectivement, je me rappelle plus tout à fait du titre. Ouais. Non, ce qui était drôle, c'est à l'époque où je préparais à coup sûr le film que j'ai réalisé, qui est donc une histoire de l'histoire d'une jeune femme qui est très scolaire, qui se met en tête de devenir performante au lit et donc aborde cette question de la manière la plus scolaire qui soit, notamment en se documentant dans les livres.
Et donc j'avais
moi je considère que c'est pas un chef-d'œuvre du cinéma, donc mais
c'était très drôle en tout cas, bien interprété, bien écrit.
Voilà, il y avait Laurence Arnay que j'aime beaucoup. Et donc à l'époque où je préparais, j'étais dans l'écriture de ce film, je me documentais moi-même sur un certain nombre de choses et j'ai oublié donc le livre dans l'avion, ce qui en soi n'était pas si embarrassant. Le un peu plus embarrassant, c'est qu'une fois arrivé à l'hôtel où j'accompagnais mon amoureux, et tout d'un coup, devant d'autres gens, je prends conscience que j'ai oublié le livre. Donc je dis « Ah, oh, j'ai oublié mon livre !» Et là, une jeune femme très gentille qui s'occupait de la régie du festival dit « Ah, mais il n'y a pas de problème, on va tout de suite appeler, on va vous le récupérer, c'est quel livre ?»
Et, non,
et,
rien
et là, voilà.
Les Misérables.
Là, je suis devenue rouge écarlate et je lui dis « En fait, alors...
Et on se justifie, c'est horrible.
Je suis en train de préparer un film.
Non, de toute façon, j'ai le PDF sur mon ordi, ça va aller, je vais le récupérer.
Je vais m'en sortir.
Mais comment l'avez-vous trouvé, surtout, c'est Daniel Morin, voudrait savoir. Comment trouver un livre comme ça?
Et vous ne pouvez pas imaginer la littérature.
Comment la faire jouir?
Non, mais tout, sur comment être performant au lit, les 350 positions les plus sûres. Enfin, il y a tout. J'en ai d'ailleurs encore quelques-uns chez moi.
Ah, Daniel, voilà.
Il y a toute une littérature sur le sujet. Il faut aller à la FNAC et voir.
Mais des rayons entiers. Ouais.
Ah oui. Ouais.
Apparemment, les filles, elles sont au courant. Nous, on ne savait pas que ça existait.
On va dans les librairies, en fait, déjà. C'est juste pour ça.
Oh non, c'est pas.
Je suis désolée.
Ça fait partie
des promenades hebdomadaires. Aller faire un tour.
C'est la meilleure démarche. Ouais.
Merci Delphine.
Ça, c'est moche.
Non, c'est un peu. Là, il s'avère que vous avez deux femmes qui vont dans les librairies.
Absolument.
Qui ont de la bonne littérature.
On apprend beaucoup de choses et on découvre beaucoup de choses.
Quel métier, ça? Alors, là, je t'en voudrais. Quel métier aurait-elle faire si elle n'avait pas été auteur?
Un contorsionniste?
Non.
C'est dans l'artistique?
Non, c'est pas artistique.
Journaliste?
Mais ça va bien avec les gratitudes, justement.
Assistante sociale?
Médecin légiste.
Travailler dans le social, dans le lien avec les personnes âgées?
Travailler avec le lien, oui, avec les personnes.
Gardien de prison?
Orthophoniste? Non.
Enseignante.
Non, on est dans le domaine médical.
Orthophoniste, non.
Anesthésiste.
Infirmière.
C'est la santé, oui, mais quelle santé?
Psychologique, psy,
voilà,
psychiatre.
Exactement. Okay. Mental. Vous avez toujours eu cette appétence pour l'analyse, pour l'écoute?
Oui, c'est vrai, et pour la psychiatrie, peut-être plus particulièrement, d'ailleurs. Si c'était à refaire, peut-être que il faut quand même avoir des compétences en sciences, en mathématiques que je n'avais pas forcément quand j'étais jeune fille, toujours pas d'ailleurs. Mais donc voilà, je ne sais pas
faut
si j'aurais
bon
pu.
En maths, il faut être pour faire psy.
Pour être psychiatre, il faut être médecin. C'est des études de médecine.
Ah oui, d'accord.
Donc voilà, va. Mais je trouve que c'est vraiment un sujet passionnant et peut-être plus encore aujourd'hui avec toutes les découvertes qui ont été faites par les neurosciences et d'évaluer justement en fait la part de ce qui relève de la neurologie du cerveau et ce qui relève de l'histoire du vécu.
Alors la psychologie, il y en a aussi et des problèmes mentaux et relationnels, il y en a beaucoup dans les gratitudes, votre nouveau roman. Et en fait ce roman, l'idée de ce roman vous est venue d'une première écriture que vous aviez faite qui était plutôt une pièce de théâtre qui s'appelait Merci.
Oui, c'était une courte pièce que j'avais écrite pour un festival qui s'appelle Le Paris des Femmes, qui est un festival de théâtre qui a lieu chaque année, qui est formidable d'ailleurs, où donc voilà, des auteurs sont, on vous propose d'écrire une courte pièce avec la chance et la certitude qu'elle va être jouée. Donc ça, c'est génial. Et donc j'avais écrit un très court texte, une rencontre entre une jeune femme et une vieille dame, ouais. Voilà, dans une maison de retraite, autour de cette idée du merci, de la gratitude. Et j'étais dans la salle quand le texte a été joué. J'avais été vraiment étonnée et émue de sentir justement l'impact de ce sujet, en fait.
Vous êtes dit, c'est bien écrit.
Est-ce qu'on retrouve ces personnages dans votre roman? Est-ce que c'est
oui,
c'est la
en
même
partie,
ossature
en, oui,
Marie,
oui, c'est
Marie
un fil que j'ai. Voilà, c'est un fil que j'ai déroulé ensuite. Donc on retrouve effectivement
Mishka et Marie.
Mishka et Marie, et auquel j'ai ajouté un jeune Jérôme. Homme, Jérôme, qui est orthophoniste, et voilà, qui est un personnage qui est apparu plus tard et qui a pris finalement beaucoup d'importance.
Pourquoi avoir changé le titre, passé de merci à gratitude? Quelle est la nuance que vous y voyez?
Alors, d'abord, le merci, le titre existe. Il a été déjà pris par Daniel Bennac.
Il y a plein de romans qui ont le même titre.
Oui, mais après, il y a
plein de chansons qui s'appellent Je t'aime, je vous aime. Enfin, je veux dire,
c'est vrai. Mais il y en a de plus ou moins importants.
Et puis surtout, pour moi, c'est un beau texte de Daniel Bennac.
Oui, c'est un très beau texte de Daniel Bennac.
C'est le discours d'adieu, en fait, d'une personne qui part à la retraite, à un pot d'entreprise. Et c'est savoureux comme texte.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu la chance de le voir jouer lui-même, d'ailleurs. Au théâtre du Rond-Point. Et donc, voilà. Non, j'étais aussi dans un cycle avec les loyautés. Vous m'aviez reçu pour ce roman. Donc, c'est aussi une manière de lier les deux, en fait. Les loyautés, les gratitudes. Je suis dans un moment où j'essaye d'explorer les liens qui nous unissent, les liens parfois invisibles qui nous unissent les uns les autres, les lois un peu étranges qui sommeillent en chacun de nous. Et voilà. Donc, c'est une manière aussi de relier ces deux textes, à la fois avec le pluriel et puis. J'aime beaucoup ce mot gratitude. J'aime beaucoup ce mot.
Je veux dire parce qu'il y a quelque chose de plus fort encore que le simple merci que l'on finit peut-être par employer à tout bout de champ pour ceux qui continuent d'être polis et de l'utiliser. C'est déjà bien.
Oui, c'est ça.
Mais c'est la convenance sociale de dire merci. C'est mais ça. Après, il y a différentes puissances dans le merci, en fait.
Oui. Et ce qui m'intéressait au fond, c'est qu'est-ce qui distingue le merci qu'on dit tous les jours, en effet, quand on est encore poli, qu'on répète parfois 10 fois, 15 fois, 20 fois dans la journée, du vrai merci, quand on a besoin finalement d'exprimer de manière plus intense sa reconnaissance.
La gratitude, c'est de rajouter la reconnaissance au merci, le fait que l'on ne serait pas la même personne sans l'autre, d'où ce lien qui réunit Jérôme, Marie, Mishka et même d'autres familles, des familles d'accueil, des familles qui ont protégé les parents de Mishka.
Oui, c'est ça. Pour moi, la gratitude, c'est reconnaître qu'on ne serait rien sans l'autre, qu'on a besoin de l'autre nous regarder, pour nous construire nous-mêmes, pour exister, etc.
Et en plus, il y a une idée qui est très belle, qui va encore un peu plus loin même que la gratitude, c'est la notion de dette.
Oui.
Moi, je trouve que c'est une idée qui est merveilleuse, parce que employé dans le champ financier, c'est inquiétant, catastrophique, et ça nous met dans une situation de péril. Or, reconnaître dans son existence la dette, c'est aussi être capable de regarder son chemin et l'autre avec cette bienveillance, avec cette envie de dire un sincère merci.
Ce que l'on doit à quelqu'un. Mais c'est ce que font les Américains avec le Thanksgiving. C'est une tradition qui n'a pas, contrairement à Halloween, qui n'a pas encore traversé l'océan. La dernière qui est débarquée, c'est Halloween, mais on finira par avoir Thanksgiving qui va arriver, qui est une réunion de famille ou d'amis extrêmement forte et prenante, où là, les larmes aussi coulent à flot, parce que chacun s'adresse à un membre de sa famille en lui disant merci et en étayant ce merci. Merci d'être mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, de me motiver, ou de se battre. Et puis il y a toujours un petit côté aussi pardon de ne pas toujours avoir su t'écouter. Enfin, c'est particulier.
Ouais, parce qu'en plus, on se rend compte que c'est pas si facile de remercier comme ça de manière aussi intense ou un peu solennelle. Ouais. Les gens, il y a tout de suite quelque chose d'un peu emphatique, d'un peu ampoulé.
Ou
gênant. Et d'ailleurs, c'est parfois embarrassant de recevoir des merci qui sont un petit peu trop émus. D'ailleurs, les premiers mots qu'on emploie, c'est il n'y a pas de quoi, de rien, etc.
On accueille mal souvent ça.
On ne sait pas toujours accueillir le merci.
Alors, le personnage central est une dame qui est atteinte d'aphasie. Définition d'aphasie, d'ailleurs, c'est à la fois il y a un effet dramatique et un effet drôle dans votre manière de la décrire, cette aphasie. Elle perd un tout petit peu la mémoire, ou du moins le sens des mots, ou l'usage des mots, quitte à s'en rendre compte. Elle-même, c'est une perte de vocabulaire au fur et à mesure.
Elle s'en rend parfaitement compte, oui, c'est-à-dire qu'elle est dans un stade de l'aphasie qu'on appelle paraphasie, elle remplace les mots par d'autres, elle en invente, elle crée des mots, elle fabrique ce qu'on appelle des néologismes ou des mots-valises. Et donc, moi, ce qui m'intéressait d'un point de vue littéraire, c'est toute la dimension poétique, éventuellement comique, comme vous le disiez, de ce nouveau langage. Voilà. Alors, dans cette première étape, il y a, j'espère, de l'humour, de la poésie qui surgissent de ces lapsus, qui sont toujours signifiants, en plus, parce que, au fond, le mot qu'elle a perdu disparaît, mais le mot qu'elle a trouvé raconte presque plus ce qu'elle ressent
c'est
ou ce qu'elle
craint. C'est presque une analyse de sa pensée.
Oui, tout à fait. Ça révèle quelque chose. Et puis, malheureusement, peu à peu, les mots vont disparaître, et là, sans forcément trouver de substitut.
Un d'accord devient un d'abord. D'abord, un difficile devient une sorte de diffus, qui devient une sorte de sourire aussi quand on lit le roman où ces mots se mélangent. Il y a une distorsion de la langue, moi, que j'ai trouvé aussi très belle. Vous parlez de néologisme. Quoi de plus beau pour un auteur que de réinventer le langage?
Tout à fait.
Tout en étant signifiant, en effet, parce que ça renvoie au passé de Mishka, à la situation qu'elle vit, à sa vision du monde aussi. Parce que quand elle parle du personnel hospitalier qui est censé s'occuper d'elle, tout d'un coup, on arrive avec un vocabulaire carcéral qui fait écho, sans dévoiler tout ce qui se passe dans le roman, à une situation qu'elle a vécue enfant. Donc c'est ça cette adéquation.
Elle rejoue,
entre les deux.
Voilà, c'est ça. Elle rejoue le passé, et cette distorsion du langage traduit aussi ses angoisses, en fait. La peur de vieillir, bien sûr, la peur de perdre, le sentiment d'être inutile aussi, d'être un poids pour la société, etc. Tout ça ressort, en fait. Et alors, elle invente des mots, et puis elle tord un peu aussi la syntaxe d'une manière, qui, j'espère, est drôle aussi.
On a les différents points de vue, ceux de Jérôme, ceux de Marie, et on a aussi la manière dont vit Mishka et sa situation dans cette EHPAD, où elle anticipe, soit elle a des prémonitions, soit elle a des cauchemars de scènes qu'elle va vivre aussi. Mais on est dans la tête de Mishka.
Oui, alors on est en fait par le langage dans la tête de Mishka. C'est que c'est Jérôme et Marie qui nous racontent d'une certaine manière, qui nous accompagnent auprès de cette femme, et cette idée d'un roman comme ça très dialogué, où j'avais envie malgré tout de faire entrer le romanesque, j'espère nous permettre de nous approcher de cette vieille dame.
Alors pourquoi la vieillesse comme terrain de jeu des gratitudes? Parce que les gratitudes, on peut les exprimer à tout âge, dans tous les milieux sociaux
Bien sûr. Oui. Je ne sais pas, en fait. Probablement parce qu'il y avait ce personnage de cette courte pièce qu'on évoquait à l'instant, qui est inspiré pour moi d'une très vieille dame qui a joué un rôle très important pour moi quand j'étais à la fois petite fille, jeune fille et même jeune adulte, qui est morte à 99 ans. Sans doute le personnage de Mishka était né dans un premier temps d'elle, et puis ensuite c'est un personnage que j'ai nourri de beaucoup d'autres choses, qui est pour moi d'autres grand-mères d'ailleurs, d'autres vieilles dames que j'ai pu rencontrer, mais qui est une sorte d'archétype de grand-mère, celle qu'on aimerait tellement serré dans ses bras.
Et ça donne lieu à des pages merveilleuses, notamment sur des questions que Marie peut se poser en observant Mishka, donc que nous, qui nous identifions aussi d'une certaine façon à Marie, sur le corps aussi d'une personne âgée, sur quand est-ce qu'elle reçoit des caresses. C'est vrai que c'est des questions que je m'étais jamais posées, de se demander...
Tu vas voir, ça va venir, ça va venir.
Oui, ça va venir. Non, mais c'est vrai que le contact physique qu'on établit avec nos amis, nos amoureux, nos amoureuses, peu importe, là, tout d'un coup, se dire qu'un corps est privé de tout ça. Et puis ces pages sur la coquetterie des vieilles dames, que moi je trouve fantastique aussi, leur façon de se recoiffer sans cesse, de se repomponner d'un petit geste, juste pour dire ça y est, je suis prête à te regarder, à te parler.
Je
trouvais que c'était tellement bien observé,
tout
et ce rapport au corps. Comment ça vous est venu? Dans quelle observation?
Là, je pense que pour le coup, c'est vraiment ma propre angoisse, peut-être de la vieillesse. Ouais. C'est sans doute une des choses qui m'effraie le plus dans le fait d'arriver dans le grand âge. C'est cette question que Marie pose. qui va me toucher, qui va me caresser, qui va me prendre dans ses bras, en fait. C'est vrai, quand on est très vieux, bah, et je me souviens d'ailleurs cette femme dont je vous parlais, elle était dans une maison de retraite où elle a été, je dois dire, très bien traitée, qui correspond pas du tout aux EHPAD, enfin, aux reportages qu'on voit aujourd'hui dans les EHPAD, qui sont parfois terribles et qui existent, bien sûr. Et il y avait une aide-soignante, qui s'appelle Jessica, je crois d'ailleurs qu'elle travaille encore dans cet établissement, qui avait un contact physique avec les vieux. Je dis les vieux parce que c'est comme ça que Mishka le dirait.
Oui,
elle aime pas qu'on dise les personnes âgées.
Oui. Les jeunes et les vieux.
Voilà. Ouais. Et on dit bien les jeunes, on dit pas les personnes jeunes. Donc elle dit pourquoi on dirait les personnes âgées. Et donc elle prenait comme ça, cette tante, elle la prenait dans ses bras d'une manière qui était vraiment très très émouvante. Et je crois qu'elle avait ce rapport-là avec pas mal des résidents. C'était, et je me disais oui, ça doit beaucoup manquer quand on a cet âge-là. Et on a perdu son mari, sa femme, et qu'on se retrouve comme ça.
Seul, et que l'on a besoin de repères aussi, et d'être accompagné, de ne plus pouvoir rester seul dans son appartement, et de savoir que l'on quitte son appartement pour aller dans cet EHPAD, et on sait quelle est l'issue de l'EHPAD. Rarement, on sort de l'EHPAD pour revenir à son appartement. Donc c'est la dernière fois, cette scène, vous la décrivez, avec une force.
Oui, là aussi, ça m'avait interpellée, parce que c'est quelque chose qu'on a tous vécu autour de nous, ce moment où un proche, une grand-mère, un grand-père, un parent parfois doit quitter son domicile pour entrer dans une institution. Et là, effectivement, j'ai tenté de me mettre à la place de Mishka et de me dire, mais ça doit être très bizarre de fermer sa porte pour la dernière fois, d'avoir organisé les choses et de savoir qu'on ne retournera jamais dans cet endroit où on a accompli des gestes des dizaines, des centaines de fois, et que tout d'un coup on redevient dépendant, on revient en collectivité.
Résident.
C'est très étrange, ouais, on est résident, voilà. Ouais. Ça doit être quand même un petit peu vertigineux.
C'est plus qu'étrange, c'est terrible cette scène. Terrible, terrible de sensibilité, oui, mais terrible.
Oui.
Parce que je me rends compte vraiment que c'est la dernière fois. Moi, j'ai trouvé ça m'a coupé les pattes.
Ah oui. Je pense que pour beaucoup de ces gens qui, à un moment donné, doivent entrer en institution, quelle qu'elle soit, la plupart du temps, ils ont une très grande lucidité sur ce moment et ce qu'il signifie.
Ce qui est peut-être pas toujours le cas de nous, de ceux qui n'ont pas à réfléchir, à penser, aller dans des EHPAD aujourd'hui.
Mais
on ne se rend pas compte de ça, mais ils ont conscience de ce moment particulier, et puis de fermer une porte et de la fermer à clé. C'est un geste presque inutile, j'ai envie de dire, fermer la porte à fermer à clé.
Non, mais même elle aurait juste claqué la porte quand tu sais que c'est la dernière fois, c'était
arrivé. Ouais, c'est une perte supplémentaire, en fait, aussi pour Mishka.
Ah oui,
c'est-à-dire
bien sûr,
on voit que tout s'écroule progressivement, la perte des mots, la perte du repère, la perte aussi même de son autonomie sur comment on range sa chambre, comment est-ce qu'on fait son lit, comment est-ce qu'on organise ses affaires. Parce que tout d'un coup, il passe d'individu qui avait une forme d'autogestion à des résidents. Ils sont réduits quand même à ce statut, ils résident quelque part. Ça veut bien dire qu'ils vont pas y rester très longtemps.
En pensant même devoir passer un casting.
C'est vrai, les mots, on leur apporte.
Ils pensent même devoir passer un casting pour être sélectionnés et de devoir danser. Ça, c'est extrêmement drôle aussi. Les gratitudes, beaucoup d'émotions, de sensibilité. À la fin du roman, vous n'avez qu'une envie, c'est de serrer quelqu'un dans vos bras et de lui dire merci. Trouver la
bonne... Je t'ai dit, Nagui, quand tu seras en fin de vie, je t'accueille à la maison. Je te mettrai jamais dans un EHPAD.
Et c'est ça qui m'inquiète.
je vais bien me traiter.
Delphine de Vigan, les gratitudes chez Jean-Claude Lattès, un succès annoncé.
Bon, on va éviter les banalités, voilà. Donc pour ceux qui nous rejoignent, c'est un livre autour de la gratitude, et vous le dites dans le livre, Delphine, vous êtes-vous demandé combien de fois dans votre vie nous avions réellement dit merci, l'expression de notre gratitude, notre reconnaissance de notre dette. Et j'ai regardé. Je crois que pourtant, il n'y a pas de remerciement dans votre livre. Donc merci de donner l'exemple. Déjà, une très grosse pensée pour toutes les boulangères qui nous écoutent et qui se disent « Putain, je vois passer 1200 clients par jour, je dis 1200 fois merci, j'espère qu'ils n'ont pas tous lu Delphine de Vigan, parce que moi j'imagine le client relou, tu sais, non, je veux pas un petit merci de merde, non, je veux un merci sincère, rempli de gratitude et de reconnaissance, oui, je veux bien une petite chouquette en plus, et alors, voilà. » Parce que c'est vrai, c'est quoi un vrai merci? On passe nos journées à le rappeler à nos enfants, tu sais, tu donnes, je sais pas, admettons, un bonbon à un enfant, et si dans les 5 secondes, il n'y a rien, et on lui dit alors, et qu'est-ce qu'on dit? Ça, vous les lâchez, les gamins.
C'est vrai qu'avant un merci, il y a qu'est-ce qu'on dit?
Oh là là, parce qu'on serait bien étonné qu'un jour, il y a un gamin de 5 ans qui nous réponde qu'est-ce qu'on dit? Bah, c'est beaucoup trop sucré, c'est absolument pas adapté à la nutrition et ça risque de me donner du diabète. Donc voilà. Mais pareil, hier, en préparant l'émission.
D'être obèse.
En préparant l'émission hier, je me balade sur Internet et ça recommence. Je regarde une vidéo et à la fin, le caméraman qui dit à la fille, et merci qui? Et la gamine, c'était quand même extrêmement compliqué pour elle de répondre à ce moment-là. C'était extrêmement gênant. Alors, donc oui, merci. Alors, effectivement, tu vois ce que. C'est toi qui m'as envoyé le lien. Alors, alors effectivement, peut-être qu'on dit pas assez de merci sincère. On est toujours là à le rappeler à nos enfants, de dire merci. Faudrait peut-être aussi rappeler à nos anciens qu'on peut dire merci. Parce que des fois, j'ai l'impression que passé un certain âge, il y a des gens... Ils sont en roue libre. Sous prétexte que t'as connu Pompidou, ça excuse tout. Alors que merci, c'est pas un mot magique, contrairement à ce qu'on apprend à nos enfants. Si, comme si un mot pouvait suffire à ce qu'on te donne un truc, ça saurait. La dernière fois, j'ai demandé une augmentation. J'ai dit, s'il te plaît, et merci, et j'attends toujours. Pas de réponse. Et je lui ai dit à Vincent Bolloré, moi aussi je le connais Cyril Hanouna, pas besoin de se la péter. Mais un merci, c'est beaucoup plus puissant qu'on ne le pense. Après, il y a plein de merci différents quand ta femme te demande si elle a pas un peu grossi et qu'elle te répond, ah bah merci, ça fait plaisir. A priori, elle te remercie pas d'avoir vu qu'elle avait pris 4 kilos en 2 mois. Faut savoir lire entre les lignes. C'est pas tout à fait un vrai merci sincère qui est l'expression de sa gratitude, comme vous le dites, Delphine. Non, c'est plus l'expression de sa passion pour les petits gâteaux entre les repas, doublée d'une petite haine contre elle-même et d'une grosse haine contre vous. En tout cas, Delphine de Vigan, un vrai merci sincère dans les yeux d'être avec nous ce matin. Un merci qui symbolise l'expression de notre gratitude, de notre reconnaissance et pour notre dette. Voyez avec Nagui. Bonne émission.
Merci, France Inter. Nagui, la bande originale.
C'est vrai qu'il n'y a pas de remerciement à la fin du livre. T'as totalement raison.
Oui.
Si vous deviez,
je pense que c'est très révélateur. Très, très révélateur.
Je dois dire que j'y ai pensé, mais en fait, il y avait trop de gens à remercier. C'était, c'est vrai. Et d'une manière générale, ça passe pas.
À la réédition, ça passe pas.
Sans doute merci, elle exprime sa gratitude dans son quotidien, dans sa vie, elle a
surtout,
pas besoin de faire.
Surtout dans le livre, en fait.
Je ne suis pas son avocate.
Dans le livre.
Mais si, je suis son avocate.
Mon livre, les gens que je, éventuellement, je remercie.
Une manière de dire merci.
Oui, absolument. Et c'est aussi leur faire confiance que de se dire qu'ils vont savoir lire entre les lignes les messages qui leur sont éventuellement adressés. Et il y a quelque chose comme ça d'un peu formel dans le remerciement, qui est presque, pour moi, presque un peu professionnel. Que j'aime moyennement.
Alors, ça fait toujours
dans le remerciement
plaisir.
À la fin du livre, je veux dire.
Il y a remerciement pour un geste, il y a remerciement pour une parole, il y a remerciement pour un acte, et puis il y a le remerciement de la vie. Il y a l'espèce de bilan que l'on peut faire en se disant si je devais remercier une seule et unique personne pour la vie que j'ai eue, à qui je m'adresserais. C'est le travail aussi que fait un peu Mishka en cherchant un couple.
Elle, voilà, il y a une raison effectivement particulière qui fait qu'elle a été sauvée par des gens qui ont risqué leur vie pour la sauver pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'elle était juive, elle fait partie des enfants cachés et elle n'avait pas les éléments après coup pour pouvoir remercier ces gens en fait. Et
c'est juste.
C'est juste, absolument. Et donc, on comprend qu'elle a essayé un petit peu plus tard de les retrouver, mais que ses parents étant morts. Cette tante qui l'a recueillie après la guerre étant morte aussi, etc. Elle manquait d'éléments.
Et puis elle a pas les noms de famille, elle a que les prénoms.
Absolument. Enfin, donc et au seuil, enfin au moment justement où elle sait que le temps lui est compté et d'autant plus qu'elle perd le langage, elle se rend compte que cette dette lui pèse au fond, même si elle a rendu à sa manière parce qu'elle a donné à Marie quelque chose qui est un peu du même ordre. Il y a une idée de transmission, de transitivité dans la gratitude. On ne donne pas forcément à la personne qui... On ne rend pas forcément à la personne qui vous a donné. On donne à quelqu'un d'autre ce qu'on a reçu. Et ça, elle l'a fait. Mais peut-être qu'elle a besoin quand même de que ce merci soit exprimé. Donc elle cherche de nouveau. Elle tente de nouveau de retrouver ces gens.
Ce qui donne une deuxième... Une autre énigme, suivie par Jérôme, c'est l'orthophoniste qui va l'aider dans sa quête. Les gratitudes chez Jean-Claude Lattès. Et voici Alexis Le Rossignol. N'ayez pas peur. Pas merci comme ça non plus.
Ah oui, c'est un merci qui manque de gratitude, c'est ça?
Je trouvais.
Bonjour, en tout cas. Il était
mécanique, voilà.
Alors il m'est arrivé une histoire dont il faut que je vous parle. C'est une histoire de vélo. Parce que je fais beaucoup de vélo, vous savez. Je suis pas Jani Longo, mais je pédale pas mal, quoi. Sauf que vendredi dernier, j'ai crevé en venant ici. Le lendemain, je me suis dit, Alex, au lieu de regarder Laurent de la House après le journal de Leila, répare plutôt ton pneu de vélo.
C'est ça.
Problème, j'avais des rustines, j'avais de la colle, mais j'avais pas de pompe. Je me dis, c'est pas grave, place de la République, il y a une pompe à vélo en libre accès. Alors j'arrive sur place, la place était noire de monde. Je me dis, c'est fou tous ces gens qui viennent réparer les chambres à air. En fait, c'était la marche pour le climat. J'avais oublié. Moi, je soutiens complètement le mouvement, mais je peux pas manifester parce que je suis agoraphobe. Hein, c'est d'ailleurs pour ça que je joue que dans des petites salles. L'autre jour, on m'a proposé un zénith. J'ai dit, je peux pas au-delà de 100 personnes, je panique. Donc, je me faufile avec ma roue de vélo pour accéder à la pompe. Et là, les gens commencent à me taper dans le dos en me disant, bonne idée, la roue de vélo, vive le vélo. Comme si, plutôt que de faire une pancarte, j'avais opté pour une roue de vélo et une chambre à air pour manifester, tu vois. Alors, bref, tant bien que mal, j'arrive à approcher la pompe, mais pas de chance, elle était pile dans le périmètre de sécurité des CRS. Au milieu des camions, avec des barrières de sécurité autour. Je ne me dégonfle pas, je m'approche d'un CRS. Vous l'avez eu au passage,
Bonne vanne, bonne vanne.
Allez bien, on l'a chopé.
Je voulais pas la marquer, mais c'est bien que vous l'ayez vue. Je la refais. Je ne dégonfle pas. Je m'approche, d'un CRS. Et je lui dis, bonjour monsieur, je suis désolé, mais je voudrais juste accéder à la pompe à vélo qui se trouve derrière vous. Il me regarde et il me dit, c'est pour gonfler ta roue. Là, je me suis dit, lui, ça doit être le chef, quand même.
Oh non.
Donc, il me laisse passer, mais en accédant à la pompe, je m'aperçois que l'embout qui permet de mettre le tuyau sur la valve est cassé. Et la dernière fois que j'avais crevé, il y a 6 mois, il était déjà cassé. Donc, si quelqu'un de la maintenance à la mairie de Paris écoute l'émission, j'en profite pour passer le message. Ce serait bien de la réparer, cette pompe, parce qu'en l'état, elle ne sert à rien.
Bon. Ça, c'est un vrai coup de gueule, ça.
Voilà, ouais. N'empêche.
Les travaux dans Paris, t'as un truc à dire sur les travaux dans Paris?
Non, pas, mais c'est long. Faut pas falloir trop m'interrompre, Nagui, parce que sinon on va durer 10 minutes, cette chronique.
Oh, le message.
N'empêche, cette manif, elle était magnifique. Moi, ça fait un moment que je me dis que c'est foutu et que ma génération est la dernière qui va profiter d'une planète encore vivable. Donc, je fais ma part, je trie mes poubelles, j'évite le plastique, j'achète des fringues d'occasion, mais je crois pas beaucoup en notre capacité à éviter la catastrophe. Mais là, en une demi-heure, j'ai retrouvé l'espoir. Il y avait des milliers de jeunes qui chantaient à l'unisson. Sur la statue, il y avait une gamine de 15 ou 16 ans qui haranguait la foule en disant « Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. » Ce slogan, il m'a rappelé la Coupe du Monde 98. Mmh. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait gagné contre le Brésilien et on chantait « Et 1, et 2, et 3, 0. » Ça m'a ému. C'est comme quand la mère de l'ours, elle meurt dans l'ours de Jean-Jacques Hano. Bref, je suis ressorti de la manif en me disant « Ils ont raison,
ils étaient,
les jeunes. »
Ils étaient 45 000.
Le personne. Pouvoir, c'est nous qui l'avons. Ouais. On est peu de choses, mais on n'est pas rien. Et comme le dit le célèbre dicton africain, « Si au royaume des aveugles, le borgne est roi, au royaume des borgnes, un strabisme suffit pour accéder au trône. » Enfin, tout ça, ça réparait pas ma chambre à air. Donc je me suis dit « T'as pas le choix, tu vas devoir acheter une pompe. » Donc je suis allé dans un magasin de cycles. Et là, messieurs, dames, je suis tombé sur un vendeur extraordinaire. Je suis tombé sur le vendeur de pompes à vélo. Moi, à la base, je venais acheter une pompe avec l'idée de prendre la moins chère. Mais ça allait très vite. Hein. Alors, la première question à se poser, monsieur, c'est le matériau. Plutôt plastique ou aluminium? Je recommande l'aluminium. L'aluminium, pourquoi? Pour une raison très simple, la solidité. Quand je dis solidité, je pense durabilité, je pense 20 ans. Moi, je vous recommande ce modèle, la Beto de chez Ed. Là, vous êtes sur un modèle haut de gamme, Super Bestiole RAS. Super Bestiole RAS. Il a dit ça en parlant d'une pompe à vélo. Tu vois? Moi, j'avais envie qu'il me laisse un peu tranquille pour prendre ma décision seul. Donc, je lui dis d'accord, merci pour les infos, je vais réfléchir. Généralement, quand tu dis ça à un vendeur, le gars comprend le message subliminal. Il devine que tu vas pas suivre son conseil, mais que t'as un peu honte de lui dire, rien à battre, je vais prendre la moins chère. Mais lui, non, il reste à côté de moi. Moment très gênant, quand même. Alors, je lui dis, je sais pas si j'ai besoin d'un modèle haut de gamme. Elle est quand même à 22 €, alors que celle en plastique, elles sont à 8 €. Je vous avais dit que c'était long, hein. Alors, comme je vous disais, la durabilité, là, il me dit, comme je vous disais, la durabilité sur un modèle haute performance en alu, c'est 20 ans. Donc, 22 € pour 20 ans, ça fait à peine plus d'1 € par an. Ça, c'est le genre d'argumentaire qui te sèche direct. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Ah oui, effectivement, lisser sur 20 ans, c'est vrai que ça fait pas très cher. J'aurai 54 ans quand elle sera amortie, mais c'est quand même avantageux. Tout d'un coup, j'ai eu l'impression qu'on parlait d'un achat immobilier. À côté des pompes à main, il y avait des pompes à pied, dont une qui avait une remise de 10 €. Donc ça la faisait 19,90, soit 2 € moins cher que la petite pompe à main en alu. Alors qu'à la base, elle était 8 € plus chère avant la promo. Psychologiquement, la promo a marqué des points dans ma tête. Et le vendeur, il le sait. Alors pour me rassurer, il me dit, les pompes à pied, c'est surtout pratique quand on crève chez soi. Mais quand on part en balade, il vaut mieux une pompe portable.
Ouais, oui, évidemment.
Alors là, tu te mets à réfléchir, tu te dis, où est-ce que je vais crever, moi? J'avais pas mangé en plus à midi, je pense que le gars a dû voir que j'étais faiblard. Et que j'allais repartir avec ma roue et ma chambre à air sans acheter de pompe. Et vis-à-vis de ses collègues, il serait passé pour un con quand même, parce que c'est une vente facile, tu vois. Donc là, il a sorti les arguments les plus techniques. Il m'a dit, en termes de pression sur le modèle alu, on est à 8 bars. Sur le modèle plastique, à 4 bars. Pression et barre, ça m'a relevé la tête un peu, tu vois. C'est comme apéro, ça fait partie des mots qui envoient un stimuli dans le cerveau. Je lui ai dit, et du coup, 4 bars, c'est pas assez? Disons que 4 bars, c'est surtout pour les vélos femmes et enfants. Et là, il insiste bien sur les mots « femme » et « enfant ». En gros, si je prends la pompe en plastique à 8 euros qui n'a que 4 barres de pression, je suis pas un vrai mec. Ouais, c'est ouais. ça qu'il me dit. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je tombe dans le panneau. Je choisis la pompe en alu. Alors que j'ai un vélo de femme. Quand j'y repense, il aurait fallu qu'ils me disent « le plastique, c'est pas très écolo » pour que je prenne la pompe en alu dès le début. Je sortais de la manif pour le climat. Mon cerveau était conditionné pour rejeter le plastique. Bref, j'ai acheté une pompe à vélo de gamme en alu. Elle m'a coûté 22 euros. Et vous savez ce qui me rend fou? Non. C'est que j'ai pas recrevé depuis. Allez, bonne journée, messieurs.
Merci. Merci.
La bande originale, Nadi, sur France Inter.
Delphine de Vigan est notre invitée pour parler des gratitudes. Son nouveau roman chez Jean-Claude Lattès, extrêmement touchant, émouvant, intelligent. C'est Delphine de Vigan, tout ça rime. Et en 2005, on lui a demandé ce qu'elle écoutait comme musique. Comme par hasard, Alain Bachung.
Tu perds ton temps à mariner dans ses yeux. Tu perds ton sang.
Alors quand je dis comme par hasard Alain Bachung, je pense évidemment à Rennes s'oppose à la nuit. Bachung est très présent dans votre BO, dans votre vie.
Ah oui, 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 ouais, vraiment à toute période en fait, depuis l'adolescence avec Vertige de l'amour et Gabi jusqu'au tout dernier album, Osée Joséphine, Bleu Pétrole et même l'album posthume. C'est vraiment, en fait, comme souvent d'ailleurs, des musiques, des artistes qu'on aime marquent les différentes étapes de nos vies.
C'est pour ça qu'on appelle cette séquence la bande originale de notre vie, c'est-à-dire que qu'est-ce que l'on écoute, comment on grandit, et ces Madeleines peuvent être dans la littérature, au cinéma, mais aussi dans la musique, et elles renvoient des images, elles renvoient des situations. Par exemple, ce titre, vous l'avez choisi pour évoquer l'année 2005, pourquoi ?
Parce qu'effectivement, c'est l'époque où j'ai écouté énormément cet album, L'Imprudence, qui est un album, c'est super d'en passer un extrait parce qu'on l'entend peu en radio, il est très expérimental, il est un peu bizarre.
Bachung a écrit. Il n'est pas formaté. Oui.
Non, il n'est pas du tout formaté, a écrit avec Jean Fauque, les textes sont magnifiques, moi c'est un de mes préférés. Et il se trouve que voilà, ça correspond à une période très particulière de ma vie, pas forcément très gaie d'ailleurs, mais j'ai beaucoup beaucoup écouté cet album.
Et quelle période particulière? Parce que 2005, c'est la première publication sous votre nom, Delphine de Vigan, de votre recueil de nouvelles, Les Jolis Garçons.
Oui, Les Jolis Garçons, ensuite quelques mois après, il y a eu Un soir de décembre. Oh, c'est une période à titre privé, enfin qui fait suite à la séparation avec le père de mes enfants. Et voilà, après 15 années de vie commune, et ça a été c'est toujours un déchirement en fait.
Et c'est à ce moment-là que vous décidez de prendre votre nom, en tout cas de ne plus publier sous votre pseudonyme Lou Delvig.
Oui, en fait, c'était posé la question, effectivement, à ce moment-là. J'avais publié Jour sans fin sous un pseudonyme. Et quand j'ai eu la chance de rencontrer Karina Hossine, mon éditrice, et d'avoir Les Jolis Garçons en perspective, c'est posé la question de soit continuer à publier sous pseudonyme, soit reprendre mon vrai nom. Et il y avait en même temps un certain plaisir à exister sous une autre identité, avec cette idée aussi qu'on m'appelait Lou. C'était sympa. Il y a un côté un peu de rêve de petite fille. On dirait que tu t'appellerais une telle. Et moi une telle. Et puis et je me suis dit, mais si je continue, si j'ai la chance de continuer à écrire, à publier, au fond j'avais envie d'assumer vraiment ce que j'écrivais, et donc j'ai décidé finalement de publier sous
avec,
mon vrai nom.
Avec le risque que l'on voit dans chacune de vos lignes une part de vous, une part de votre intimité.
Oui et non, pas forcément, mais ça c'est une question souvent que les gens se posent, mais cette frontière entre l'histoire vraie et la fiction, elle est beaucoup plus trouble, elle est beaucoup plus complexe et d'une certaine manière beaucoup plus ténue que ce qu'on imagine en fait.
Mais même au-delà de la frontière entre la vérité et la fiction, le fait d'écrire une fiction et la manière dont on l'écrit elle est décrite trahit et explique qui l'on est au fond.
Probablement, on écrit
comme
toujours,
quand on raconte une histoire. Quoi.
Absolument. Ouais. On écrit toujours à partir de ce qu'on est, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a observé, de ce qui nous a bouleversé, de ce qui nous a tenu à distance, etc. Donc la fiction, elle ne s'écrit pas à partir de rien. Elle s'écrit à partir de nous.
Ouais, écrire,
donc de toute façon, il y a un engagement dans l'écriture qui est énorme. Et même en écrivant de la science-fiction, on a l'impression de se mettre tout nu au milieu de la rue, donc et que ça révèle quelque chose de très profond, et peut-être d'ailleurs plus quand on écrit de la fiction où on a le sentiment d'être protégé par les personnages, de se cacher, que quand on écrit des romans qui sont a priori un peu plus autobiographiques, c'est mon cas avec Jour sans fin ou Rien ne s'oppose à la nuit, qui ne sont pas paradoxalement, forcément ceux dans lesquels on s'expose le plus.
C'est honnête de le reconnaître. En 2007, vous écoutiez Paolo Nutini. Ça fait longtemps que j'ai plus entendu Paolo Nutini. Vous aimez les voix qui sont chargées entre Bachung et Nutini, ce sont des voix. Alors, la grosse différence, c'est que Nutini, c'est un gamin de 18-19 ans à l'époque, qui avait une voix de vieux bluesman de Louisiane. C'est ça qui est très beau gosse en plus.
Oh oui, très beau, ouais, c'est vrai. Moi, j'avais beaucoup aimé cet album. Il y a quelque chose d'assez pop en même temps, d'assez un peu acidulé. Peut-être que ça, d'ailleurs, ça correspond pour moi à une sorte de nouveau départ. Voilà, c'est plus ou moins le moment où j'ai quitté l'entreprise aussi, en fait.
C'est elle qui vous a quitté, d'ailleurs, vous êtes
oui,
virée.
Oui, c'est elle qui m'a quitté, oui.
Merci Nagui.
Ouais. Non, mais je peux rappeler un bon souvenir, elle est toujours là.
Elle s'est fait lourde.
Elle a dit que c'était un bon souvenir, c'est pour ça que je me permets.
Non, bah, en fait, c'est une nouvelle période, avoir la chance d'écrire aussi à la lumière du jour, etc. C'est pas, voilà, ça a été
donc c'est un licenciement qui finalement correspondait aussi à un moment de votre vie où vous vouliez vous consacrer à l'écriture, où votre roman, le troisième roman, No et moi, dont on a parlé puisqu'il a été adapté par Zabou Breitman, a commencé à bien marcher.
Oui, ce que j'avais pas forcément prévu, parce qu'à vrai dire, là, c'était je travaillais depuis 11 ans dans la même entreprise, c'était la fin d'une collaboration qui s'était pas très bien terminé. J'étais assez en conflit avec mon entreprise quand j'ai été licenciée. J'étais pas sûre du tout. Enfin, même je n'imaginais pas vivre de l'écriture à ce moment-là. Je me suis dit, je vais pouvoir peut-être faire une pause et écrire un roman à la lumière du jour. Et il se trouve en effet que Noé et moi, qui était sorti quelque temps avant, a commencé à rencontrer un public plus large que celui que j'avais rencontré jusque-là.
Et rencontrer vos pères, ce sera le cas en 2015.
Dans ma veste de soie rose, je déambule morose. Le crépuscule est grandiose.
Christine and the Queens correspond à une période que vous qualifieriez comment ?
Pour moi, là, c'est vraiment c'est quelque chose que j'ai écouté pendant que j'écrivais d'après une histoire vraie. C'est rare d'ailleurs que j'écoute de la chanson française, mais il se trouve qu'elle était dans une espèce de BO qui accompagnait le roman. Je m'étais fait une grande playlist. C'est un livre qui a été très très compliqué à écrire et il y avait cette chanson que j'adore qui est une reprise de Christophe.
Alors, je ne peux pas vous laisser dire ce que vous venez de dire sans réagir. Ouais. Vous créez une bande originale pour préparer un roman ?
Pas c'est toujours, génial. Ça dépend. Je l'ai fait, oui, je l'ai fait à plusieurs reprises. Et pour D'après une histoire vraie, j'ai vraiment créé une playlist.
Mais pourquoi on n'y aurait pas accès à cette playlist ? Ça serait formidable pour le lecteur aussi.
Partagez-la en ligne.
J'avais pensé, je dois dire que j'avais pensé. Parce que c'est vraiment, il y avait pour moi une telle difficulté pour ce livre à me mettre au travail. Il y avait une sorte de rituel, donc j'arrivais de face à l'ordinateur avec le sentiment qu'il fallait vraiment se battre. Et donc, je mettais la playlist au même endroit. Et donc, elle scandait comme ça ma matinée. Et quand j'arrivais sur tel titre, je me disais, ça va, il doit être 10h30,
11h. C'est formidable.
J'ai tenu jusque-là.
C'est génial. Et donc, Christine and the Queens, vous avez eu la gentillesse de nous la confier, cette playlist. Christine and the Queens, Emilia Torini, Orange Bloom, La Grande Sophie.
Orange Blossom, c'était...
Orange Blossom. Ouais.
Ah, Orange Blossom.
Génial, Orange Blossom.
Ouais. Voilà, oui, c'était et plein d'autres, hein, plein d'autres titres plus ou moins anciens, en fait, voilà, que j'avais réunis, plus ou moins speed par moment aussi. On a besoin de s'en remettre un petit coup,
se réveiller,
se réveiller. Voilà. Boost,
en tout cas, c'est deux prix qui couronnent d'après une histoire vraie, le Goncourt des lycéens, le prix Renaudot. Vous avez dit que l'écriture avait été difficile. Pourquoi ?
Oui, pour ce livre en particulier, d'abord il s'était passé 4 ans entre mon précédent roman et celui-ci.
Vous ne pouviez plus écrire après Rien ne se pose la nuit.
J'ai senti qu'il était inutile de m'y remettre. En fait, je ne me suis jamais confrontée à la page blanche parce que j'ai eu l'intuition très vite que je n'allais pas me remettre au travail comme ça. Et donc j'ai laissé passer du temps. Et en revanche, quand je m'y suis remise, c'était pas tellement un problème de page blanche, c'était un problème d'avoir une sorte de démon perché sur mon épaule, qui ricanait dès que j'écrivais trois phrases, pour dire les choses, se foutait royalement de moi. Et donc, je me battais tous les jours avec une sorte de démon intérieur qui me disait « Pourquoi tu fais ça ? C'est nul, c'est pas la peine, tu vas pas y arriver. » Et alors, il existe toujours, mais pour ce livre-là, il était particulièrement en forme.
Et voici un petit bout d'orange. Ça.
Magnifique, moi j'adore ce
Nous avons invité Anne-Lise Giraud qui a eu la folie d'accepter de venir à ce micro. Merci Anne-Lise. Vous êtes docteur en neurosciences, spécialiste du langage et de ses pathologies, directrice de recherche au CNRS, professeur ordinaire à l'Université de Genève. Vous dirigez un laboratoire de recherche sur le cerveau, l'audition et le langage. Et vous avez écrit « Le cerveau et les mots de la parole » chez Odile Jacob. La parole, comment expliquer le fonctionnement de la parole ?
Là, c'est la partie pas drôle de l'émission qui arrive.
Mais non.
Comment expliquer le fonctionnement?
En tout cas, pour vous, c'est riche. Hein, vous avez Nagui devant vous. Vous allez pouvoir prendre des notes pour votre travail.
Pour les neurosciences.
Ah ouais, là. Je ne sais pas si ça a évolué. Non.
Alors, comment expliquer? C'est très compliqué. Mais heureusement, on a les neurosciences qui nous aident un peu et qui nous permettent de voir ce qui se passe dans le cerveau, voire de comprendre les petits mécanismes. Donc voilà, c'est mon travail.
Et comment on explique, alors, par exemple, dans le cas du roman que Mishka...
Comment on explique déjà qu'on prononce des mots, des phrases, que l'on pense à quelque chose et qu'on arrive à le formuler, et que justement, avec l'âge, cette mécanique-là se dérègle?
On a un réseau dans notre cerveau, dans notre hémisphère gauche particulièrement, qui est là pour le langage, qui implique notre lobe temporal. Postérieur.
C'est lui qui est touché en cas d'AVC, par exemple.
On peut en parler. Je finis ma petite explication. Puis on a notre lobe préfrontal gauche aussi, et ils sont en interaction. Donc on a ce réseau qui est dédié et qui effectivement, en cas d'AVC, va être touché et qui va produire des aphasies. Mais l'aphasie dont il est question n'est pas une aphasie
d'AVC.
Suite
AVC, oui. Donc la parole, c'est mécanique. Ce sont vraiment des connexions. C'est vraiment un système d'irrigation dans le cerveau. C'est quelque chose qui n'est pas, qui ne s'apprend pas, qui n'est pas un geste entre guillemets, qui n'est pas un mouvement.
C'est les deux justement. Ah oui, bien sûr. C'est toute la complexité de comprendre la parole. C'est l'abstraction, oui. Mais aussi l'articulation, la compréhension. C'est divers et varié.
Parce que le mot, enfin le signe qu'on emploie, il est complètement arbitraire pour envoyer une réalité. Donc tout d'un coup, un mot peut valoir éventuellement un autre si on ne l'identifie pas correctement au référent, en fait.
Exactement, ouais, c'est ça.
Et perdre la notion, la valeur des mots, c'est l'aphasie, c'est aussi Alzheimer, Parkinson, sont des maladies qui sont liées à l'âge aussi, ou pas uniquement?
Alors, plutôt liées à l'âge. Donc là, on est dans un cas d'une aphasie primaire progressive qui est tout à fait similaire à la maladie d'Alzheimer, mais qui, contrairement à celle-ci, affecte une partie du cerveau qui est une partie du réseau du langage. Et dans le cas présent, justement, une partie bien spécifique qui est la partie postérieure du cerveau et qui va induire ces néologismes, puisque c'est la partie qui traite de la phonologie, donc du son de la parole. Donc il va y avoir des confusions et c'est très créatif.
Le premier qui arrive, c'est d'abord à la place de d'accord. Si ma mémoire est bonne, dans le livre. Donc oui, après ça devient soit poétique, soit ça trahit une réelle pensée, c'est psychanalytique, soit ça devient drôle, il y a différents moments.
Oui, parce qu'on perd des petits circuits, donc au départ, avant une perte totale, c'est ce qu'on voit, c'est progressif, on va perdre certains mots, et du coup le cerveau tourne autour du mot, et il va pouvoir soit trouver une analogie conceptuelle, à ce moment-là on va employer un autre mot qui veut dire la même chose, soit il va trouver une analogie phonologique, qui est tout à fait le cas dans le roman, et ce qui rend tout ce côté poétique, créatif.
Sauf que perdre ses mots, c'est aussi perdre ses idées, c'est perdre sa pensée, c'est perdre une forme d'identité aussi.
Et le lien avec les gens qui nous entourent.
Ouais. Parce qu'un mot à la place d'un autre, par analogie phonétique, en effet, c'est joyeux, mais on perd la précision de ce qu'on veut dire ou l'émotion qu'on a envie de pointer.
C'est le problème de l'aspect progressif de cette maladie, ouais. Puisque elle progresse dans la quantité de neurones qui vont être détruits dans cette partie, on va dire, phonologique du cerveau. Et puis elle progresse aussi vers le cortex frontal qui est responsable aussi d'aspects de notre personnalité. Il y a le mutisme qui vient par le manque du mot, qui forcément va transformer aussi la personnalité, parce qu'on n'est plus pareil si on est mutique ou pas. Donc il y a des tas d'aspects dans cette pathologie qui la rend particulièrement intéressante.
Et comme on dit que pour la mémoire, c'est un muscle qu'il faut faire travailler, là aussi, par le biais de jeux, d'exercices, d'image que l'on montre, on doit garder cet entretien. C'est le travail de l'orthophoniste.
C'est le travail d'orthophoniste, mais qui est un peu peine perdue, si je puis dire. Ouais. C'est ce qu'on fait actuellement. Effectivement, il faut. C'est ce qu'on fait en fait spontanément avant qu'une telle maladie se déclenche.
Donc on peut ralentir la progression de la maladie, pas forcément la guérir.
Je pense qu'on le fait tous en fait, puisqu'on a tous de la dégénérescence dans notre cerveau. Et puis en pratiquant, en ayant une activité intellectuelle, on lutte contre ça. Puis à un moment, on perd la lutte. Mais l'orthophoniste, il prolonge ce qu'on fait naturellement.
Et quand on perd la mémoire et on a oublié, je sais pas, ses clés, on sait plus comment s'appelle un tel, on reconnaît un visage mais on met plus de nom sur le visage, ça ce sont des signes. On blague au quotidien en disant ça y est, j'ai Alzheimer parce que c'est
boule,
voilà, je perds la boule, j'ai plus de mémoire. Mais est-ce que ce sont des vrais signes?
Il a juste... Kenagi, là.
Figure-toi que la mienne va très bien, merci.
Je pense que ce sont des vrais signes, en effet. Il y a beaucoup de gens qui vont mourir avec des signes, on va dire, physiques, matériels d'Alzheimer, qui sont des plaques d'amyloïdes dans le cerveau, mais qui n'auront jamais développé d'Alzheimer. Donc je pense que tout est une affaire de savoir la quantité de neurones qui ont vraiment été détruits.
Et qu'il ne faut pas négliger, donc ces petits signes.
Pas négliger, entraînons-nous.
Cerveau et les mots de la parole, aphasie, dyslexie, surdité, bégaiement et autres, c'est Annelise Giraud qui le signe chez Audi Jacob. Merci d'être venu à ce micro. Sont mes yeux ou vous lisez Mickey, Tanguy Passion?
Ah oui, pardon, non, c'est pas que je m'ennuie, Nagui, votre émission est toujours passionnante, ouais, bien menée, avec cette spécificité que vous avez de lancer le journal de midi à midi une. Il faut dire que parfois je fais des lancements à rallonge qui vous mettent dedans et je sais que c'est en partie de ma faute, mais comment vous dire? Bref, c'est juste que Nagui, vous êtes dans le top des stars préférées des 7-14 ans du journal de Mickey, mais attention, en baisse.
Ah, il faut que je travaille, il faut que je travaille.
Ressaisis-toi.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec Leïla Kadoukoudi.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bravo.
Tom Villa.
Bonjour.
Alexis Rossignol. Tanguy Passuro. Et notre invitée, l'excellente Delphine de Vigan.
Bravo. Oui.
Qui est touchant dans les gratitudes publiées chez Jean-Claude Lattès, Delphine, c'est que pendant ces infos, toute l'équipe est venue
vous demander de l'argent,
vous voir et vous dire à quel point ça les avait touchés.
Oui, ça me fait plaisir avec des lectures souvent différentes du roman.
C'est
exactement
ce que j'allais
fascinant,
dire. Vous êtes surprise par ce que l'on vous rapporte.
Je ne m'en lasse pas, franchement, de voir à quel point un même livre peut être perçu de manière différente. Je le sais en tant que lectrice. On est touchés chacun par des choses différentes. Voilà.
Est-ce qu'il peut y avoir un lecteur qui le prenne d'une manière extrêmement positive, un autre qui le prenne d'une manière extrêmement noire, obscure?
Oui, tout à fait.
C'est un peu le cas, j'ai l'impression, entre Daniel et moi. C'est-à-dire que, Daniel, toi, t'as été touché.
Oui, touché. Enfin, j'étais abattu presque parce que
voilà.
Alors
que moi, j'ai été touché, mais en me disant, il faut dire aux gens qu'on les aime au moment où ils sont encore là et faire des câlins.
Vous n'avez pas du tout le même moral tous les deux dans la vie, en fait.
Non, je pense qu'on a.
La lecture exacerbe ta nature première.
On n'a pas la même situation. Tu as encore ta maman.
Voilà, ce qui a grosse différence. Oui, d'un seul coup, tu l'as par-dessus ton épaule.
Ce qui a grosse différence avec moi, qui ne l'est plus.
Tu veux que je te prête la mienne?
Non, ça va aller. Je communique encore un peu avec la mienne. Mais je suis sûr que, oui, tu as raison. C'est d'un coup, c'est analytique, quoi, ce truc-là.
Ça révèle probablement, effectivement, quelque chose de qui nous sommes, la manière dont nous lisons. Mais en tout cas, en tant qu'écrivain, c'est fascinant de voir à quel point, en effet, la perception peut être opposée.
Ce que je trouve formidable justement avec ce livre, c'est que ce sont des sujets qui sont hyper délicats. On pourrait verser dans la sensiblerie, pour employer un néologisme, mais pas du tout. C'est fait avec beaucoup de sensibilité.
Non, c'est pas un néologisme, la sensiblerie.
Ben, pour moi, si. En tout cas, c'est dégueulasse. Et la sensibilité, c'est un art qui est très très délicat. Et là, j'ai été saisi.
Ouais. Alexis Rossignol, toi aussi, tu as un autre point de vue aussi du livre?
Non, c'est-à-dire qu'en fait, il y a assez peu de descriptions physiques de la personne et également de l'environnement, ce qui fait que chacun va finalement identifier dans ses souvenirs un endroit qui ressemble à ce que vous êtes en train de décrire, et chacun s'approprie l'histoire finalement.
Exactement, ouais.
Et grâce au fait qu'il n'y ait pas énormément de détails finalement.
Et on peut même imaginer finalement que vous l'avez décrite, cette Mishka, parce que on a la sienne en tête, et là si vous me disiez voilà, Mishka en fait elle est ronde, je vous dirais non, pas du tout, parce que vous l'avez pas décrite du tout comme ça, alors que vous ne l'avez pas fait dans le bouquin. C'est très juste,
elle est peu décrite, et ça correspond un peu à ma recherche du moment que j'avais déjà tenté dans les loyautés le précédent. C'est vraiment cette idée au fond d'être dans une forme de sobriété, d'épure, d'économie de moyens.
Que chacun ait sa mishka.
Et qui permet au lecteur, même si je dois dire que quand j'écris le lecteur est souvent mis à la porte, j'essaye de surtout pas y penser. Mais peut-être c'est dans cet espace, dans cet espace laissé vacant que le lecteur se projette et projette en effet sa propre mishka.
Vous l'avez compris, on l'a tous aimé, ce livre de Delphine de Vigan, Les Gratitudes, chez Jean-Claude Lattès. Voici Tanguy Pastureau. Bon, Tanguy, après ce que vous venez de dire sur ce journal de Mickey et ce classement, vous imaginez bien que je suis triste, blessé, meurtri.
Oui, je vous comprends, Nagui. Vous vous retrouvez dans la même position que Benoît Hamon un soir de scrutin avec dans la bouche le goût amer de l'échec. L'auditeur de France Inter qui somnole roulé dans sa veste en velours au fond de la salle d'épreuve du lycée Abdelaziz Bouteflika de Cergy, ça se fait de donner le nom d'un mort à un établissement, hein, se dit « Mais pourquoi Pastureau, dont j'aime tant les chroniques au point de me les faire tatouer sur le corps, dit-il que Nagui est triste ?» Ben oui, on met la radio, on vous entend rire, on allume la télé, vous dansez, tandis qu'un candidat massacre du maître Gims, c'est-à-dire qu'il reprend la chanson telle qu'elle. Vos yeux en permanence brillent comme un ciel étoilé. Si vous croisez Thomas Pesquet, celui-ci va se frotter sur votre visage en disant « ça te dirait un plan à 6 avec les Bogdanov ». C'est-à-dire vous, lui, plus les Bogdanov qui chacun niveau taille compte pour deux. Mais oui, auditeur d'Inter, mon gros loup de gauche, Nagui est brisé, telle une vieille pâte à tarte, on a envie de lui foutre des couettes dessus et de laisser Laurent Mariotte l'étaler dans un plat beurré. Puisque notre succès à tous n'est qu'un miracle. Déjà parce que passé la frontière de l'Andorre, il n'y a plus personne qui nous remet, sauf Raphaël Glucksmann qui n'est plus reconnu par qui que ce soit dès qu'il passe le périph à Paris. Et vous, Nagui, vous cartonnez sur les 14-99 ans. Hein. Vous dites à un jeune « Pensez quoi de Nagui ?» Il répond « Waouh, j'adore, je me souviens d'un taratata. » C'était avec Bertignac, il avait fait un solo de guitare de 27 minutes 30. Il avait fallu le faire piquer pour qu'il arrête. Vous dites à un seigneur « Alors Nagui ?» Il répond « Ah, mais c'est mon ami du midi, parce que vous savez, je suis seul, tout le monde m'a lâché. » Et donc on lui dit « Allez, monsieur Bayrou, reprenez-vous, courage. » Donc les 14,99 c'est bon, mais sur les 7-14 ans c'est un échec. Vous êtes moins populaire que le bris de mot chez les intolérants au lactose. Le journal de Mickey que j'ai reçu par service de presse, ce qui montre qu'après un an et demi sur Inter, je suis toujours aussi crédible qu'Alain Juppé s'il se présentait au casting de l'émission Ninja Warrior, indique que dans le classement des stars préférées des 7-14 ans, vous perdez 8 places. Les enfants vous aimaient, ils vous aiment moins, vous avez la même carrière que Laurie. Vous êtes 42e sur un total de 40.
Je serai ta meilleure amie.
Mais oui, ne pleurez pas, parce que nous les vieux, on vous kiffe. Quand on vous voit, on a envie de danser. On le fait pas à cause de cette douleur récurrente à la hanche. Mais le désir est là. Cependant, Nagui, vous êtes un homme qui va de l'avant, un battant, un winner. Vous avez le corps d'Attila et l'esprit de Martine Aubry. Ou l'inverse, ça fait pareil. Donc, analysons ensemble le top 47 et voyons pourquoi les enfants vous haïssent. Ça ira plus vite que de les convaincre un par un, en leur donnant l'un après l'autre un bonbon à la sortie de l'école, en disant c'est de la part de Nagui, il t'aime beaucoup. Un classement, il faut le savoir, c'est comme des toilettes publiques. Pour qu'il y en ait qui entrent, il faut qu'il y en ait qui sortent. Ou alors, c'est une soirée entre adultes un peu haute dans les WC. En fait, vous baissez à cause des footballeurs. Ces gens coiffés par les magasins Truffaut avec un râteau et du Roundup.
Donc, vous voulez dire que les footballeurs, eux, rentrent dans le classement, c'est
oui,
ça ?
Kylian Mbappé entre directement numéro 1. Bah voilà. Numéro 2, N'Golo Kanté, joueur des Bleus. Hein, je me suis renseigné, moi, en Kanté, j'en étais resté à Mori Kanté. Hein, qui, en 88, chantait Yeke Yeke. J'adorais ce truc. Bah, si, dans mon village en Bretagne, que je chantais un yékéké, yékéké. C'est à ce moment-là que dans la tête des gens est née la théorie du grand remplacement. Troisième du top 7-14 ans, Soprano. Numéro 4, Big Flo et Oli, et après Papa viendra de border. Mais à part ces trois-là, il n'y a que des fouteux dans le top 10. Griezmann, Pavard, Lloris, Umtiti, Pogba. Pour plaire aux 7-14, il faut faire du foot. Parents, c'est pas la peine de vous ruiner dans l'achat du Nintendo. Un ballon et le gamin est content. Dans Rendez-vous à un terrain inconnu, vous savez, il y a toujours une star en larmes qui regarde des gosses jouer avec un bâton, face caméra, il dit « Putain, en fait, c'est ça la vie, on n'a pas besoin des iPads, de la télé, de la société de consommation, tu vois. Hein, en deux heures, Muriel Robin, c'est Che Guevara. Mais chez nous, c'est pareil, vous dites à votre fils « Vas-y, Kevin, t'es Mbappé ». L'autre crie « Ouais, super, vous lui jetez un pauvre ballon de plage, il tape dedans pendant 17 jours en bavant. » Et même si vous préférez garder la thune pour l'abonnement Netflix, ne lui achetez pas de ballon. Un terrain vague, le vieux caouette papy qui est mort en guise de balle, vous lui dites « T'es Mbappé », ça aura le même effet. Évite les seringues, Kevin. Il n'y a pas que vous,
Nagui, que les enfants exècrent au point, s'ils vous voient traverser la rue, de foncer sur vous à vélo. Tous ceux qui ne font pas de foot baissent. Eric Antoine, moins 8 places. Black M, moins 17. Les autres comiques, c'est pareil. Hein. C'est l'hécatombe. Kev Adams, moins 19 places. Danny Boone, moins 17. Gad Elmaleh, moins 7. Mais bon, il a copié sur les deux autres. Les seuls à faire une entrée dans le classement hors foot, ce sont les Kids United, nouvelle génération. Alors, nouvelle génération parce qu'on les a changés récemment. Ouais, hein, les enfants, c'est comme les chiens dans la vitrine de l'animalerie. Petit, c'est mignon, mais dès que ça grandit, on n'arrive plus à les refourguer au public. Alors, Stéphane Plaza perd 4 places. Normal, il ne fait pas de foot. Mais comment Plaza a pu se retrouver un jour dans le top des 7-14 ans? Moi, si mon neveu devient fan de Plaza, je lui dirais à 9 ans, tu t'intéresses au prix des pavillons en Seine-et-Marne. Mais tu as tout l'âge adulte pour être chiant, Enzo. Éclate-toi, sniff de la colle. Oui, je fais un très mauvais oncle. Bref, Nagui, vous avez un an pour passer de la tribune du Stade de France où vous végétez à côté de Pascal Obispo au terrain du Stade de France en short avec un petit boule conquérant et 3 traits dans la coiffure. Les 7-14 ans valent bien ça.
Merci Tanguy Passo. Je vous parlais à Didier Deschamps.
Nagui sur France Inter.
Vous êtes hermétique au football, Delphine de Vigan, ou vous avez suivi la Coupe du Monde?
Je dois dire, cette fois, j'ai pas énormément suivi. Ce que j'aime bien dans le foot, c'est le moment où ils gagnent. En fait, j'adore voir ces gens qui se...
Eh ben là, on a gagné, justement.
Oui, je sais bien. Quand même, j'étais au courant.
Mais je
m'en fous un petit peu des équipes. En fait, de savoir qui gagne, j'adore voir ces types tout d'un coup exploser de joie. Je trouve qu'il y a un truc comme ça.
Il y a la communion de sportifs.
Oui. Ça, y a toujours quelque chose qui m'émeut un peu.
Ce qui est formidable.
Sinon, sincèrement, je m'intéresse pas.
Ce qui est formidable en sport, vous avez raison, c'est la victoire, parce que cette victoire, c'est une espèce de dépassement de soi, mais on peut même l'appliquer à Usain Bolt quand il courait son 100 mètres à une vitesse phénoménale, la vitesse de l'éclair. C'est-à-dire que ils ne se battent que contre eux-mêmes et un chronomètre, c'est ça qui est formidable aussi. Et un sportif, qu'il mette un ballon au fond d'un filet, qui gagne une Coupe du Monde, qui remporte une médaille d'or, va vivre des sentiments, je pense, qu'aucun acteur, chanteur, auteur, créateur, sculpteur, peintre ne pourra vivre. C'est avoir une foule comme ça et avoir un moment de, en se disant mais tout bascule en quelques dixièmes de seconde. Quelle autre situation peut envoyer autant d'adrénaline dans la vie?
Oui, voilà, c'est ça. En fait, peut-être quand on regarde ce spectacle à la télé, c'est la dimension d'adrénaline d'empathie qu'on peut avoir qui est assez fascinante, y compris d'ailleurs dans le drame quand ils perdent. Ouais. Il y a un côté tout à fait
tragique. Les gratitudes, Delphine de Vigan chez Jean-Claude Lattès, on en parlait hors antenne aussi avec Alexis Le Rossignol. Toi, c'était la notion du temps.
Oui, je trouvais qu'en fait, il y avait des passages dans le bouquin qui rappelaient à quel point nous, en tant que, on va dire, actifs, on a toujours cette considération du temps qui passe, alors que eux l'ont moins. Et quand on leur dit non, mais l'histoire va être un peu longue à te raconter, là justement Mishka répond moi j'ai le temps,
j'ai tout le temps.
Qu'en fait c'est nous qui avons une perception accélérée.
Enfin, la notion du temps, c'est une notion, c'est très romantique aussi.
La fuite du temps,
suspend ton vol, les voueurs propice.
Ah oui, alors ça c'est la suite, je sais pas.
Et vous, heure propice, suspendez votre...
Ça commence les neurones qu'il faut que ce soit.
Votre cours, les... Attends, les... Après, histoire
en tout
de
cas,
les...
c'est la fuite du temps qui est un topos de littérature qui a été très très
abordé
dans le 19e.
C'est pas ça?
Voilà, peut-être.
Et vos rapides délices.
Bon, en tout cas, voilà. Enfin, bref. Pardon, j'ai pas été dans
j'étais.
Moi, je la connaissais, mais je l'ai regardée à galère.
J'ai plongé dans le lac du Bourget. Non, mais c'est vrai qu'on retient que le haut temps suspend ton vol, mais c'est vrai que la notion du temps aussi n'est pas la même. Déjà, en fonction de l'âge, plus on vieillit, plus le temps passe vite. Et elle, là, d'un coup, elle a énormément de temps.
Et puis, il y a cette idée que, voilà, elle en est consciente, et il y a cette idée que attendre est une occupation en soi, en fait. Attendre une visite, attendre quelqu'un qui va entrer dans votre chambre pour vous proposer un petit goûter ou quelque chose. Il y a une espèce de dilatation, de dilution aussi du temps qui est... Enfin, c'est ce que j'ai imaginé, parce que je n'ai pas encore été en maison de retraite, mais en tout cas... À venir, justement, quand on vient de l'extérieur, je trouve qu'on a ce sentiment que vous évoquiez de... on vient d'un autre monde en fait, où tout va vite, où tout est comme ça, extrêmement rapide. Et tout d'un coup, on a l'impression qu'on entre dans un endroit où le temps n'est pas le même. Ouais. Souvent, ça me frappe aussi quand on va voir des gens à l'hôpital ou cette confrontation. Je trouve pas le mot, mais ce hiatus entre deux temporalités qui ne sont pas du tout les mêmes.
Y compris, entre le personnel qui n'a pas le temps ou qui est précipité ou qui doit aller vite,
absolument,
et les patients qui portent bien leur nom, il faut qu'ils le soient et qui attendent.
Ouais, tout à fait. Mais là, ça c'est une autre dimension qui apparaît comme ça un peu en filigrane dans le roman à travers les cauchemars de Mishka. Cette idée, effectivement, cette espèce de course à la rentabilité dans laquelle sont certains établissements qui donnent très peu de temps aux soignants, quels qu'ils soient, alors qu'au fond, les vieux, ils ont besoin de quoi d'autre que le temps d'autrui. Ouais.
Oh, y a des vieux qui ont besoin de Daniel Morin aussi, c'est le moment. Voici Daniel Morin.
Alors, dans la catégorie « Qui c'est le con du jour ?», je demande... Qui ça va être ? La SNCF ! Bon, je m'explique. Le week-end dernier, une jeune fille de 15 ans, comme à son habitude, va prendre le train au Havre pour rentrer à Paris après avoir rendu visite à son papa en Normandie. Retardée sur le chemin de la gare par des gilets jaunes, elle arrive un peu en panique. Au lieu de prendre à la machine son billet habituel, à 4€ avec carte de réduction, elle se trompe et prend un billet à 4,10€. Elle se fait contrôler et là, on entre de plein pied dans la quatrième dimension.
Sans blaguer.
Le contrôleur lui met une prune de 35€, payable immédiatement. Elle a 15 ans, elle n'a pas de chéquier, elle n'a pas de carte bleue. Bim ! Majoration, l'amende passe à 85. La maman se dit, un peu fort quand même. Elle écrit à la SNCF qui lui répond, non, désolé madame, mais tout est normal, le contrôleur a très bien fait son travail. Trop fort. Résumons. Pour faire le trajet Le Havre-Paris, jeune fille a le droit de payer 4€. Elle prend un ticket à 4,10€. On lui dit, hop, donne-nous 35. Elle peut pas, on exige 85, soit plus de 20 fois le trajet. Question ? En matière de l'évolution de l'espèce, dans quelle direction va la SNCF ?
Pas la bonne.
En tout cas, ce qui importe, c'est que la semaine suivante, le voyage s'est très bien passé. La jeune fille a payé 4€ et le train est arrivé. Avec une heure de retard. Alors, histoire de...
Ils l'ont remboursé ou pas ?
Mais non, pas du tout. Histoire de dingue quand même. Mais, Nagui, où va s'arrêter ce délire ? France Inter flasheuse spécial dans un train qui effectuait la liaison Paris-Marseille. Un homme qui voyageait en seconde classe avec un billet de première a été contrôlé. Comme le billet ne correspondait pas, il a été condamné à une amende de 8,000€ payable immédiatement. Comme l'homme n'avait pas la somme sur lui, le contrôleur lui a coupé une jambe qui lui sera rendue s'il s'acquitte d'une amende de 45,000€ payable en liquide dans un délai de 24 heures. Eh bien moi je dis qu'on est peut-être pas loin de ces extrémités. Et si ça se trouve, ça va être contagieux. France Inter, flasheuse spéciale. Les départs en vacances sont souvent les sources de petits tracas. Dans le vol Nice-New York de ce matin, un Américain a voulu acheter un parfum en duty-free dans l'avion. Le flacon valait 40€. Il a tendu à l'hôtesse un billet de $50. Il a dit à l'hôtesse, j'ai pas d'euros, gardez la monnaie. Une attitude qui n'a pas du tout plu à la chef de cabine et qui va à l'encontre de la politique commerciale d'Air France. L'homme s'est vu infliger une amende de 890,000€ payable en liquide immédiatement. Comme l'homme n'avait toujours pas d'euros, il a été prié de quitter l'appareil en plein vol. Remarquez, ça pourrait être pire. Bien pire. France Inter, flasheuse spéciale, ce matin, un invité de la bande originale a osé faire une réponse plus longue que la question de Nagui. Furieux que l'invité ait bafoué le règlement qui stipule que les questions du maître doivent toujours être minimum 180% plus longues que les réponses des invités. Du coup, et conformément au règlement de l'émission, le film de l'invité en promo a été qualifié de, je cite, film de merde avec des acteurs pourris et une réalisation de crétin. L'invité qui a refusé de s'excuser, de payer l'amende de 1,5 million d'euros, a été inscrit d'office pour le lendemain à faire l'émission de Pascal Pro sur RTL. Horrifié, l'invité a voulu s'excuser puis a fait un chèque de 5 millions pour échapper à RTL. Mais c'était trop tard. Espérons qu'on n'en arrive pas à des horreurs pareilles. À demain.
Merci.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois dans votre vie vous aviez réellement dit merci, un vrai merci ? C'est la quatrième de couverture, mais ce qui est à l'intérieur est encore plus fort, encore plus touchant et émouvant, les gratitudes de Delphine de Vigan chez Jean-Claude Attès, l'histoire donc de cette dame, Mishka, qui perd le langage, perd la mémoire, perd ses repères, et perd finalement ce qui fait sa vie, et le lien dans sa vie, et se retrouve par sécurité, c'est quelque chose de plus rassurant, dans un établissement, dans un EHPAD, avec la compagnie donc d'un orthophoniste, Jérôme. Marie, la jeune Marie, on ne sait pas d'ailleurs le lien réel qu'il y a entre les deux. Au début, je me demandais, est-ce que c'est la petite fille, est-ce qu'elle l'a adoptée. Elle n'est pas aussi définie que peut l'être Jérôme, en tout cas, dans le cadre qui entoure Mishka, mais en tout cas, elle incarne la jeunesse.
La gratitude aussi, c'est un lien de gratitude.
Et la gratitude, voilà. Elle va continuer de grandir et de voir sa vie grandir à tous les niveaux. Et ces personnages seront le lien qui vont tenir un peu comme des haubans, Tiananma, vont la tenir encore debout le plus longtemps possible.
Oui, c'est ça. Là, il y a le lien, bien sûr, avec Marie. Donc on comprend que c'est un lien qui est antérieur, où elle a joué un rôle important pour cette jeune femme quand elle était petite fille, ce qui explique en partie que Marie continue d'aller la voir. Et il y a le lien qu'elle crée dans le temps du roman, dans le temps du récit avec Jérôme. Et voilà, j'aime bien cette idée, en fait, qu'il n'est jamais trop tard pour créer des liens. Et donc, même dans ce temps qu'elle sait compter, avec la perte du langage qui la guette, elle rencontre cet homme, et lui, d'ailleurs, dit pourquoi, en tant que soignant, ça, je pense que c'est quelque chose qu'ont éprouvé tous les gens qui sont soignants au sens large, pourquoi on s'attache plus à certains patients qu'à d'autres. Et voilà, c'est un vrai coup de foudre entre eux. Il y a quelque chose qui se passe, au-delà de cette rééducation, voilà, plus ou moins perdu d'avance. Au fond, elle n'a pas tellement envie de faire les exercices, d'ailleurs. Ce qui l'intéresse, c'est de parler avec cet homme. Et en même temps, elle voit en lui, âme, elle sent quelque chose en lui. Voilà, elle a une espèce d'acuité comme ça dans le regard qui lui permet de lui dire des choses qui vont le faire avancer, lui.
Parlons de l'avenir. Si je vous dis Tropique de la violence, vous me répondez quoi ?
J'espère de tout cœur que un jour vous verrez sur les écrans l'adaptation de ce roman magnifique de Natacha Apana. Ouais. Voilà que je suis en train d'adapter avec le réalisateur qui s'appelle Manuel Shapira. Nous travaillons depuis quelques temps déjà sur l'adaptation du roman qui va faire un film magnifique.
Qui a été adapté en BD récemment même.
Oui, tout à fait.
Mmh. Qui est un très beau roman.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oh là, bien sûr, désolé déjà pour Daniel Pénac qui a découvert ce matin le respect de la loi et du droit d'auteur de Nagui. Ça va, Dany ? Comme dit Nagui, un livre, c'est des lignes, des mots, le reste, s'en fout. Désolé pour messieurs De Vigan et Kadour Boudadi qui ont découvert ce qui se cachait derrière les sorties librairie de leur compagne. On n'est pas trop au rayon de la Pléiade, hein, on est plutôt chez Jackie et Michel. C'est pas joli, joli. Désolé pour Nagui. Hein, ouais, j'ai eu monsieur Grudel, le prof d'allemand de Delphine de Vigan, à la pause. Et te conseille fortement d'abandonner le français première langue. Je crois savoir que nos auditeurs, comme la direction de la radio, partagent ce sentiment. Ah, j'ai un petit texto de Bernard Pivot. Il est d'accord, ok.
Ouais, tout le monde est d'accord.
Désolé pour Nagui encore qui ce matin a découvert deux nouveaux mots. Merci et gratitude.
Oh, salaud.
En même temps, t'emmerde pas à les retenir. Je te connais, tu t'en serviras jamais.
Salaud.
C'est moche.
C'est pas cool.
Merci Nagui.
C'est la vie.
La vie est moche. La vie est moche. Le livre est touchant et comme vous l'avez compris d'ailleurs, en fonction de qui vous êtes, de votre vécu, de votre famille, de votre parcours, l'écho ne sera pas le même et c'est ça qui rend un livre encore plus exceptionnel que les autres. Merci Delphine d'avoir pris le temps de venir à ce micro.
Merci à vous.
Delphine de Vigan signe Gratitude chez Jean-Claude Lattès. On continuera de parler d'ailleurs livre demain avec David Fuenquinos et son nouvel ouvrage Deux Sœurs. Tout de suite, les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonjour Philippe.
Ja, ich bin da. Salut les amis.
Wie geht's?
Sehr gut.
Couramment espagnol, ça
et même ausgezeichnet.
Ah, ça, j'ai pas compris.
Et ça vous embouche un coin.
Ouais, ça veut dire quoi?
Je sais pas.
Moi, je sais dire du Vögelsing d'Imbald.
Oh, bravo.
Les oiseaux chantent dans la forêt.
Chatsi.
Oui.
Salut, mon trésor.
Bispalt. Bon, allez, Schnell.
Kuss.
Il est l'heure.
Kuss.